Europe 1,
11h30,
bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Julia.
Bonjour Mélanie.
Bienvenue dans Bien fait pour vous, votre magazine bien-être dédié au mieux vivre et à votre santé également. Nous sommes en direct avec vous jusqu'à midi et demi. Alors aujourd'hui Julia, par quoi va-t-on démarrer ?
Eh bien comme tous les jours, on va commencer cette émission en se posant une question de notre vie quotidienne et celle du jour. La voici, le couple parfait existe-t-il ? On va parler d'amour ce matin, la Saint-Valentin approche à grands pas et certains désespèrent peut-être de ne pas en avoir encore trouvé l'âme sœur. Eh bien rassurez-vous, on va vous la trouver. Eh bien non, parce que l'âme sœur n'existe pas. Enfin, l'osmose parfaite et sans aucune vague, ça c'est quasi impossible. On va justement parler des principaux soucis rencontrés par les amoureux, comment gérer la jalousie, l'infidélité, peut-on et doit-on pardonner ? On va tout reprendre aujourd'hui avec notre invitée. Nous recevrons Cécilia Como, elle est psychanalyste, sexologue, clinicienne et thérapeute de couple.
Et puis Julia, à 11h35, dans notre dossier santé bien-être, on va vous parler aujourd'hui de médecine douce pour temps dur. C'est d'ailleurs le titre du livre de notre invité suivant. Il est pourtant psychiatre, docteur en neurosciences. C'est le docteur Patrick Lemoine. Et lui, pour tenir le choc dans ce monde compliqué, sans se jeter sur les antidépresseurs, il nous propose de nous tourner vers des méthodes alternatives comme l'hypnose, les bains de forêt ou encore l'EMDR. Mais attention, dit-il, gare aux charlatans. Il nous donnera les résultats de son enquête sur le sujet.
Ensuite, Mélanie, à midi, dans notre séquence tendance, il y aura d'abord la chronique du chef Abdel Alaoui. Ce midi, il nous propose de nous régaler avec des granolas dans l'assiette. Il nous apprendra une petite recette simplissime à reproduire à la maison. Ensuite, ce sera au tour de notre experte beauté, Maud Ravier, de nous présenter sa tendance. Et avec elle aussi, les conseils seront tout doux. Elle nous expliquera qu'en limitant le stress, on a tout simplement moins de rides. Elle nous donnera, elle aussi, ses petites recettes beauté perso.
Et enfin, Julia, on finira cette partie tendance avec Philippine Darblay et on restera dans la beauté quelque part car elle nous expliquera qu'il n'y a pas que les crèmes, les cosmétiques pour rester beau et belle, la dernière mode. Ce n'est plus de faire des cures de compléments alimentaires mais de se les appliquer directement sur la peau. Elle nous présentera notamment un enroulement au magnésium. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?
Ah oui, qu'est-ce que c'est ?
Europe 1.
C'est bien fait pour vous, vous êtes sur Europe 1 dans votre magazine Bien-être, Mieux Vivre. Alors ici, vous le savez, on tente de vous faciliter la vie dans tous ses aspects. Et ce matin, on va s'intéresser à cette question. Le couple parfait existe-t-il ?
Bon, je sais, Julia, que vous allez déjà répondre oui, c'est le vôtre.
Ouais,
mais soyons honnêtes, non, c'est le mien. Enfin non, une vie à deux, c'est pas tous les jours un long fleuve tranquille. Est-ce si grave d'ailleurs ? On s'ennuierait, finalement, sentimentalement, si c'était tout rose tout le temps, comme dans tous ces films-là, un peu les films de Noël, les films à l'eau de rose. Enfin, on va détailler tout ça dans un instant avec notre invité. Mais pour commencer, on va donner la parole sur ce sujet à notre amoureux de la vie, notre cher Clément Lanoux. Bonjour Clément.
Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Un sujet que j'adore évidemment, le couple parfait existe-t-il ? Heureusement que non, la perfection, il y a longtemps qu'on y a renoncé. Alors j'ai demandé aux plus jeunes, les ados, les adultes de demain, je leur ai dit, c'est quoi un couple parfait pour vous ? Qu'est-ce qu'il faut exactement ?
Bah une fille, un mari qui se trompe pas, qui se trompe jamais et qui s'aime. Et qui vivent la meilleure vie du monde.
Bah, un mari qui partage les trucs à manger avec sa femme. Ça, ouais. C'est un couple parfait.
Bon, c'est déjà pas mal.
Premier élément, j'ai demandé à des personnes qui étaient en train de grignoter. Donc
on
voilà.
A entendu, oui.
Voilà, le cerveau de proximité. Tiens, bon, on va parler de nourriture. S'ils partagent la nourriture, c'est peut-être le couple parfait. Alors, il y en a qui n'y croient pas du tout, en revanche.
Pour moi, la perfection n'existe pas. C'est vraiment une symbiose entre deux personnes, autant avec amour, communication, respect... Très scientifique. Ah, ouais. Amour, respect, communication et puis un peu de folie parce que il faut un peu de folie dans la vie quoi.
C'est pas une ado ça.
C'est une grande ado, c'est une jeune adulte
donc,
évidemment.
Quelle réflexion déjà. Wow.
Très bonne réflexion. Bon, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de pression, beaucoup de facteurs à accumuler pour être le couple parfait et je me suis finalement je me tournais vers un couple.
Bah oui.
Eux vont pouvoir me dire c'est quoi le couple parfait.
Bah, nous évidemment.
Ça fait combien de temps?
Oula, je sais plus.
Vous avez la réponse?
Oui, 11 ans.
11 ans, voilà. Les hommes se rappellent plus souvent du nombre d'années de couple et les femmes du jour de la rencontre.
Mais mytho, mais c'est pas possible, j'y crois pas
c'est
du tout.
C'est ce que j'ai trouvé en tout cas, ce reportage l'illustre bien.
Vous, ça fait combien d'années? Vite.
Oh, moi, ça fait 10 ans.
Oh, bon. Ouais, c'est facile à retenir.
Ouais, voilà. Vous pourrez pas vérifier si c'est vrai ou pas.
Il y a Caro qui m'envoie un texto et qui dit non, ça fait 11 ans.
Ça fait 10 jours. Alors justement, que faut-il faire, je leur ai demandé, pour que ce couple dure encore 11 ans de plus?
C'est la complicité, la compréhension et faire aussi quelques concessions.
C'est de continuer de se marrer quand même, presque 20 ans après, voilà, on s'entend toujours aussi bien et ça fait plaisir.
Bah c'est de s'aimer,
Et c'est d'avoir une copine un peu chiante, des fois aussi.
Alors, ah bon, je confirme que la première partie chiante, je ne dirai rien sur la question. Il faut être sincère, être honnête, et normalement, tout se passe bien.
Bon, ça, c'était les conseils des gens en couple. Je suis retourné vers les ados, et je leur ai dit, vous en êtes où à votre âge? Il y a déjà des grandes histoires d'amour ou plus des amourettes?
Oui, il était pas parfait, je l'ai quitté 4 jours après. Au début, je le trouvais moche, après, je l'ai trouvé beau, et après, je l'ai retrouvé moche.
Bah, je faisais que te dire, hein, il était moche. Je sais pas comment vous faites pour tomber amoureux de lui.
Tout le monde est déjà sorti au moins une fois avec lui. Il est sorti avec mon ex-meilleure amie, ma copine, moi.
Moi, je dis un truc, je pense que lui, c'est pas le prince charmant.
Lui, ce le sera sûrement pour quelqu'un, mais plus tard, il n'est pas prêt en tout cas. Alors, que faut-il éviter? Je vous quitterai là-dessus. Que faut-il éviter dans le couple pour devenir justement parfait?
Bah donc l'irrespect, et qu'est-ce qu'il faut éviter d'autre?
Faire voler au lit, ça normalement c'est éliminatoire. Avec une autre, c'est éliminatoire.
Les fétichistes des pieds, faut les arrêter aussi, genre.
Bon voilà, je retire tout ce que j'ai dit sur les hommes tout à l'heure.
C'était parfait, merci beaucoup Clément Lanoux pour l'introduction à notre sujet du jour. C'est vrai qu'il y a des bases là, je dirais, et à présent on va rentrer dans les subtilités avec notre invité. Bonjour Cécilia Como.
Bonjour, et vous merci de l'invitation.
Avec plaisir, vous êtes psychanalyste, sexologue clinicienne, thérapeute de couple et l'auteur du livre « Le couple parfait n'existe pas » aux éditions Flammarion. Alors, vous voulez dire par là que beaucoup trop de gens le fantasment, justement, ce couple idéal? On est nombreux, franchement, à se mettre la pression à ce niveau-là.
Je pense que c'est une pression assez invisible, que derrière ce titre qui est un clin d'œil, il y a cette notion d'une recherche d'un couple où tout va bien. Donc le problème n'est pas sur le reste de la phrase, que ça aille bien, c'est normal, c'est le tout. Mm-hmm. Et je trouve qu'il y a effectivement, c'est surprenant de voir sur des couples qui ont 30 ans, donc qui sont jeunes, de voir cette recherche
du tout,
cet empilement en fait d'attente qui fait que à un moment donné l'autre va me suffire et que tout, et c'est bien dit, tout doit être présent, la communication, le confort, la sécurité, mais aussi l'imprévu, l'inattendu. Enfin, on en met tellement à un moment donné. Et puis, je pense que les sites de rencontres ont largement favorisé cette notion de recherche idéale, puisqu'on recherche en cochant
exactement
des cases
ce qu'on veut
et en mettant nos attentes.
Bien sûr.
Même les émissions mariées, je crois, au
premier regard,
c'était à si vous matchez à 97%.
C'est sûr que ça va marcher.
Voilà, donc oui, il y a quelque chose d'extrêmement étrange. Alors qu'on est dans une époque où on aurait pu penser qu'on s'affranchissait vraiment de ça.
Et justement, vous pensez que si on vise que ça, hein, avoir un couple parfait, au moins en apparence, hein, parce que c'est ça aussi le gros problème, est-ce que vous pensez que forcément on va droit dans le mur?
Oui, je pense qu'à un moment donné, il y a vraiment quelque chose, c'est que je ne reconnais pas l'autre comme pouvant me décevoir, pouvant être absent au rendez-vous que je lui ai fixé, et je ne vais pas lui pardonner. Et donc se crée souvent du ressentiment parce que il n'est pas dans ou elle n'est pas dans une perfection et les gens aussi ont souvent cette notion, et je l'entendais, que perfection c'est le gage d'être heureux longtemps. Et ça c'est incroyable parce que déjà on peut être longtemps ensemble sans être heureux et inversement très heureux sur un temps court.
Complètement. Cécilia Como, vous restez avec nous, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes sur le couple au sens large. Il peut être épanoui sur le long terme, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuves à traverser. Et justement, on va les détailler, ces peaux de banane qui peuvent se mettre sur notre chemin amoureux. Jalousie, passage à vide du côté de la sexualité, infidélité, mensonge, waouh, quel programme,
ouais, génial,
mais ça fait partie de la vie et on vous en parle ce matin sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
De retour dans Bien fait pour vous, votre émission Feel Good, Mieux Vivre. Et ce matin, dans ce studio, on parle d'amour, car c'est une chose, vous le savez, cruciale dans notre vie à tous. On se pose surtout cette question. Le couple parfait existe-t-il? On réfléchit à tout cela avec vous, Cécilia Como. Je rappelle que vous êtes sexologue clinicienne, thérapeute de couple et l'auteur du livre dont vous nous parlez ce matin, Le couple parfait n'existe pas, aux éditions Flammarion. On a la réponse. Cécilia Como, on va tout reprendre justement depuis le début d'une histoire d'amour. Une rencontre imparfaite déjà, est-ce que ça peut signer malgré tout le début d'une belle histoire d'amour?
Ah, j'aime à croire que ce sont les rencontres imparfaites qui font les plus belles histoires d'amour. Parce que justement, c'est elles qui révèlent d'une certaine manière quelque chose qui n'est pas du tout attendu. Mm-hmm. Donc c'est beaucoup plus, à mon avis, la magie, elle est là. Elle n'est pas sur une perfection d'emblée.
Mais est-ce que si, par exemple, la première fois qu'on voit son futur partenaire, on le déteste, on n'aime pas son attitude, c'est mal parti ou...
Ça arrive. Non. Moi, j'ai des couples, à chaque fois, je demande comment de me raconter leur début, leur rencontre. Et ça m'arrive quand même souvent qu'on me dise, je l'ai trouvé... Alors, détester, le mot est fort, mais je le trouvais hyper arrogant.
Physiquement pas terrible, c'est possible, ça
Alors, physiquement pas terrible, c'est physiquement pas mon genre, plutôt.
D'accord.
Et de dire, et finalement, il y a quelque chose, ça s'appelle le charme, qui a fonctionné à côté. Mais évidemment, c'est ça qui est intéressant, c'est que cette évidence absolue qu'on voudrait tous d'emblée de jeu, ça nous prive très certainement de rencontrer des gens qui, avec qui on pourrait avoir une histoire formidable.
Mais alors le coup de foudre, le fameux coup de foudre, parce que c'est le cliché de la rencontre parfaite, hein, par excellence, on le voit beaucoup dans les films, vous n'y croyez pas? C'est un mauvais départ pour le coup?
Non, je crois absolument au coup de foudre, mais comme son nom l'indique, c'est un coup.
Ça fait mal.
Voilà, et c'est très différent d'une rencontre, c'est-à-dire que le coup de foudre se retrouve, les gens qui se rencontrent sur un coup de foudre, de toute façon se retrouvent au même titre que ceux qui se sont rencontrés sans coup de foudre, à un moment donné, face à une réalité, c'est l'autre est un autre et ne ressemble pas autant à ce que j'avais idéalisé. Sûrement que les gens du coup de foudre sont plus à même d'être déçus. Parce que l'écart entre ce qu'ils ont idéalisé et la réalité est leur paraît à eux beaucoup plus grand.
On descend plus haut, quoi.
Bah ouais, c'est sûr. Ouais. Alors, lors des premiers rendez-vous, on a envie de se montrer sous son meilleur jour. Et au final, parfois, ça ne marche pas. On trouve que l'autre est un peu imparfait, maladroit. Mais vous dites que ça aussi, ça peut faire marquer des points.
Bah oui, alors déjà, je redis à tous les hommes que dès lors qu'ils sont sincères, honnêtes, et qu'ils n'essayent pas de camoufler...
Pourquoi vous adressez qu'aux hommes, aux hommes
parce qu'ils ont souvent l'impression qui doivent tenir ce rôle de d'être sûr d'eux et de pas être timide, de pas être gêné.
Donc les femmes sont plus naturelles souvent, vous voulez dire, au premier rendez-vous?
Elles s'autorisent à pouvoir être gênées, timides, rougir. Ça va beaucoup moins les déranger. Les hommes, ils sont un peu, ils arrivent un peu camouflés. Très souvent d'ailleurs, les femmes, elles le voient. Donc c'est pas terrible. Moi, je trouve qu'il vaut mieux être honnête et tout à fait sincère pour dire dès le départ, c'est un petit peu compliqué pour moi, mais ça me fait très plaisir.
Et puis un homme timide, ça peut être tout à fait charmant.
Je trouve que les femmes sont très assurées. Sont beaucoup plus bienveillantes et prêtes à accueillir un homme qui se révélerait un petit peu vulnérable au départ, d'autant que c'est une situation quand même hyper compliquée et stressante. Vouloir plaire à l'autre, donc faire semblant qu'on est super à l'aise et qu'il n'y a aucun problème, j'ai presque envie de dire... c'est suspect, ça veut dire combien de fois vous l'avez fait, ça,
vous êtes hyper entraîné.
Voilà, exactement, c'est votre combientième de rancard là dans la semaine.
Bon, on a passé le rancard, on va dire la relation elle a débuté justement, et puis parfois dans les débuts on est bien au départ avec la personne et puis assez rapidement justement ça devient sérieux, on peut avoir des doutes. Est-ce que il est vraiment pour moi? On est si différents finalement, on n'est pas du même bord politique, enfin j'en passe. Est-ce que ces doutes, s'ils arrivent vite, c'est mauvais signe là aussi, qu'il vaut mieux s'arrêter?
Alors non, je pense pas que ce soit un mauvais signe, mais je pense que c'est très lié aussi à la société dans laquelle on est. C'est-à-dire qu'on a un choix tellement immense en réalité de partenaires et de possibilités que ça nous étourdit un peu et qu'on remet en question sur souvent des choses qui sont... Il y a vraiment cette grille, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui screenent littéralement l'autre et effectivement, il n'y a pas tellement d'espace pour se dire « bon, on verra bien ». Je trouve qu'il y a de moins en moins le « on verra bien ».
Il faut laisser sa chance au produit. Non, je rigole.
Il y a un peu de ça quand même.
Il y a un peu de ça quand même. Alors pour la sexualité, est-ce qu'il faut laisser sa chance également à son partenaire quand ce n'est pas l'éclate au lit dès le départ?
Moi, je suis toujours étonnée d'une certaine manière que ce soit l'éclate au lit dès le départ. Parce que finalement, ça devrait être le contraire. Face à un corps qu'on ne connaît pas, quelqu'un qu'on ne connaît pas encore, on devrait être plutôt hésitant, un peu maladroit. Donc ça, pour moi, c'est plutôt la norme. Et justement, à force de se rencontrer et de faire l'amour, on commence à se mettre sur le même tempo et on commence à se connaître et ça monte en fait en harmonie et
en connexion. Accorder les violences, ça peut prendre du temps, quoi, c'est ça.
Alors que, du coup, voilà, et c'est vrai, encore une fois, alors là, pour le coup, hommes et femmes se mettent une pression incroyable, comme si la sexualité, en Occident, en tous les cas, puisqu'elle précède un peu la mise en couple, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays, ça devrait être absolument formidable et ça sera le signe qu'on est tout à fait l'un pour l'autre.
C'est faux. Alors justement, puisqu'on est sur la sexualité, elle va évoluer dans un couple qui va durer. Et parfois, je dis même parfois, mais est-ce que c'est pas tout le temps ? Est-ce qu'il n'y a pas toujours des hauts et des bas dans un couple du point de vue de la sexualité ? Au début, c'était peut-être pas top, après ça va mieux. Et puis après, parfois, il y a des enfants qui arrivent, il y a des choses dans la vie.
C'est le destin de la libido. Alors, surtout féminine, mais féminine et masculine, de varier. Et d'être des fois en pleine forme. Souvent, les gens, pendant les vacances, se retrouvent beaucoup plus disponibles. Et souvent, d'être basse, parce qu'il y a des priorités quotidiennes qui font qu'elles occupent, en fait, le cerveau des gens. Donc, évidemment. Alors après, tout est une question de durée, de temps et de souffrance d'un partenaire. Parce que quand ça va bien aux deux, il y a zéro problème.
Oui, si les deux sont pas hyper portés sur la question, c'est pas bien grave, ça ?
Ah, pas du tout, voilà. C'est pas grave.
Non, parce qu'on entend plein de copains et de copines qui nous disent, je sais pas, au bout de combien de mois, ou de combien de semaines, combien de jours, entre deux rapports sexuels, il faut s'inquiéter.
Ce qui vous va bien. Moi, j'ai connu un couple qui faisait l'amour une fois par mois. Et ils étaient très heureux. Ni lui, ni elle n'avaient une vision autre de leur vie sexuelle. Donc, ce qui fait le facteur problématique, c'est la souffrance d'un des deux. Rien d'autre, pas le nombre, pas la fréquence.
Est-ce qu'on est fait, justement, puisqu'on on a parlé de sexualité, mais on va passer à quelque chose d'un peu plus large. Est-ce qu'on est vraiment fait, selon vous, l'être humain, et puis de tout ce que vous voyez, finalement, dans vos consultations, comme cas différents, est-ce qu'on est fait pour être vraiment avec la même personne toute la vie ?
Mélanie, on n'est jamais, et on n'a jamais été avec la même personne toute la vie. Ouais. Dans le temps, on mourait jeune. Les femmes mouraient en couche, les hommes, à la moindre coupure, avaient une septicémie et c'était terminé. Donc, de toute façon, on se remettait en couple, bien souvent. Aujourd'hui, on est dans une monogamie sérieuse, c'est-à-dire qu'à la limite, on est fidèle à quelqu'un, mais sachant qu'on aura plusieurs quelqu'un dans notre vie, cette histoire d'être avec une seule personne toute sa vie, je pense qu'ils ne sont pas nombreux à pouvoir dire qu'ils ont vécu ça.
Donc ça veut dire que si on est attiré par quelqu'un d'autre, en dehors de notre couple, on ne s'affole pas ?
Mais non.
Sans forcément passer à l'acte, hein, d'ailleurs, non, c'est non, ça. C'est normal d'être attiré éventuellement par quelqu'un d'autre ?
Mais oui, c'est normal. Et y a énormément de gens qui essayent de décortiquer le fait de dire « Ah, c'est bizarre, j'aime ma femme, voire même je la désire, ou inversement, j'aime mon mari, voire même je le désire. »
Et pourtant ?
Et dans le même temps, je suis séduit ou séduite par quelqu'un d'autre. Bah, ça, évidemment que ça arrive. Et qu'est-ce que ça dit ? Ça dit simplement que quelqu'un, pour X raisons, a attiré notre regard. L'image qu'il renvoie de nous nous plaît énormément. C'est surtout ça.
Et la grande question, donc, est-ce qu'on passe à l'acte ? Ça, vous ne pouvez pas y répondre, j'imagine, c'est l'affaire
ça
de chacun.
Ça dépend pas de moi, oui.
Mais est-ce que si on est passé à l'acte, on en parle à son partenaire ?
Alors ça, c'est une vraie question. Si vous avez quelqu'un qui ne sait absolument rien, qui ne se doute d'absolument rien, la question se pose quand même de pourquoi lui déposer une bombe pareille dans le crâne ? Parce que ça va être une bombe. Si vous avez quelqu'un qui
a des soupçons,
vous demande s'il se passe quelque chose, c'est finalement à vous de choisir si vous allez lui mentir ou lui dire ce qui s'est passé. Mais quand vous avez quelqu'un qui ne se doute strictement de rien, c'est assez compliqué. Sauf dans certains cas, là, j'avais un couple, alors peut-être qu'ils se reconnaîtront, de deux messieurs, et l'un a surpris un SMS de l'autre, et en le lui disant, alors c'était un SMS de drague, hein, l'autre, d'emblée, lui a expliqué qu'il l'avait trompé, déjà. Et en fait, on se pose la question, pourquoi vous... Oui. Et en fait, c'était un message. Ça n'allait pas. Et ils voulaient effectivement déclencher un coup de tonnerre pour que leur couple se transforme et que l'autre entende ce qu'il avait à dire. Il se trouve que ça a fonctionné.
Oui, mais c'est une manière un peu violente.
Ouais. C'est pas toujours le cas, mais voilà, il y a des gens qui vont le dire parce qu'ils veulent provoquer justement cette bombe dans le crâne de l'autre.
Ouais. Eh bien, Cécilia, vous ne bougez pas, on va continuer à parler de tous ces couples imparfaits, car ils sont nombreux. En fait, c'est même la totalité d'entre eux. L'amour-passion, l'amour qui dure avec la même intensité pendant 60 ans ou plus, sans aucune vague, ça n'existe pas. Et justement, ce matin, on apprend à surfer sur ces vagues. D'ailleurs, je le rappelle, vous pouvez nous laisser vos questions sur vos difficultés de couple ou même sur notre sujet suivant, sur les médecines douces, au 3921, le répondeur d'Europe 1, ou encore sur nos réseaux sociaux, par exemple sur le compte Instagram de l'émission. À tout de suite sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1, bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Ce matin ici, on ne parle que d'amour. On l'a bien compris hein, jusque-là avec notre invité. Le couple parfait, ça n'existe pas. Cécilia Como, vous êtes toujours avec nous. Je rappelle que vous êtes sexologue, thérapeute de couple et l'auteur du livre « Le couple parfait n'existe pas » aux éditions Flammarion. Alors on va parler d'un sujet qui paraît incompatible avec le couple parfait. Ce sont les disputes. À quoi servent-elles ces disputes et ont-elles une utilité d'ailleurs ?
Alors c'est vrai que dans les couples parfaits, on n'aime pas les disputes. Ça, on m'a souvent dit, nous on ne se dispute jamais, très fièrement. La dispute, elle est... je pense qu'elle est tout à fait inhérente au couple, mais tout dépend de quelle forme elle prend. Elle sert très souvent à se recentrer, à être entendue. Parce que si on était entendu, je ne suis pas sûre qu'on aurait besoin de se disputer. Parfois être reconnu aussi, enfin souvent même être reconnu pour ce que je fais, pour ce que je suis. Et parfois aussi pour que l'autre réaffirme un peu son choix amoureux. C'est-à-dire que ça fait un moment qu'on n'a plus l'impression Mais comment tu m'aimes ?
Mais elle est inhérente un peu à tous les rapports sociaux. Enfin, je veux dire, on se dispute avec ses amis, on peut se disputer avec ses collègues.
Complètement.
Ça permet de remettre les pendules à l'heure.
Le couple est une relation entre deux individus, donc il n'échappe pas effectivement, Mélanie, à certaines règles. Qui prévalent sur d'autres relations.
Mais alors, est-ce qu'il y a des bonnes, on l'entend souvent, des bonnes et des mauvaises disputes ? C'est vrai ça ou pas ?
Les mauvaises disputes, c'est surtout celles qui pulvérisent l'intégrité de l'autre. C'est-à-dire quand on utilise du mépris, quand on utilise des insultes. Le pire, quand on utilise la bouderie. Ça détruit en fait les gens.
Bouderie ? Je pensais que c'était pas grand-chose la bouderie.
Ah oui ?
Ouais, moi je
vous recommande le passage sur mon livre sur la bouderie.
Pourquoi c'est si nocif la bouderie alors ?
Ah mais c'est épouvantable la bouderie.
C'est juste... l'autre, non ?
Mais complètement. Et justement, je dis c'est rigolo parce que nous en français c'est un mot tout mignon.
Oui,
et même
chaud,
les gens qui subissent la bouderie ont tendance à dire oh il boude. Sauf que quand vous le subissez sur un certain temps, c'est juste intolérable. C'est vraiment nier l'existence
bien
de
sûr.
L'autre. C'est le faire disparaître. Tu n'existes plus. Je ne te vois plus, je ne te parle plus.
Je vais arrêter de bouder tout de suite.
C'est épouvantable. Alors ça, pour le coup, c'est un vrai extincteur au niveau du couple.
Et du désir. Le docteur Patrick Lemoine, qui nous a rejoint, a des choses à dire à ce sujet. Vous êtes psychiatre et je vous ai vu trépigner devant votre micro.
Absolument. Il se trouve qu'il y a bien longtemps, j'avais publié le petit guide de la scène de ménage. Et je pense qu'effectivement, j'avais interpellé le gouvernement en disant il faut, avant que les gens aient le droit de se pacser ou de se marier, qu'ils aient passé leur permis de conduire la scène de ménage, parce qu'il y a des règles. Les règles, c'est
pas
les insultes humiliantes et les coups.
J'en parlais. C'était tellement évident.
Je pense profondément que la bouderie, à partir du moment où on annonce le temps qu'elle va durer, est une arme tout à fait possible.
Ah oui,
mais il faut dire combien de temps ça va durer.
D'accord.
Sinon, effectivement,
non,
ça
si les règles sont claires, ça peut passer.
24 heures, ça passe. Thérèse, sur Instagram, vous pose une question. Elle dit « J'ai 29 ans, je suis très fleurbeuse. J'avoue que j'attends encore de rencontrer le prince charmant. Est-ce que le romantisme est mort ou est-ce qu'on peut encore croire à nos rêves ?»
Alors, pour Thérèse, imperfection et romantisme ne sont absolument pas antinomiques. Mm-hmm. On peut tout à fait être très romantique et accepter que celui qui va se présenter en fait en face de moi ne coche pas toutes les cases ou ne réponde pas à toutes mes attentes.
Alors on a Delphine également à Paris qui nous a écrit sur Facebook, elle raconte que, alors là l'histoire est un peu complexe, écoutez bien, elle raconte que son mari l'a trompée pendant plusieurs mois avec une femme, c'est elle qui l'a découvert, il ne lui aurait rien dit sinon. On s'est séparés 3 mois mais j'ai accepté qu'il revienne car je l'aime et nous avons 3 filles. Néanmoins, il a été honnête avec moi et m'a dit qu'il ne pouvait pas m'assurer qu'il ne recommencerait pas. Il a de très gros besoins sexuels que je ne peux satisfaire, dit-il, que me conseillez-vous ? Là on est loin du mari parfait, là c'est sûr.
Oui, alors
à la fois c'est clair, les règles sont claires.
Mais oui,
je ne sais
et
pas.
Puis c'est ce qui est assez rare finalement, de dire clairement à l'autre,
je ne serai pas fidèle.
Oui, exactement. Mmh. Après, c'est à elle de voir, lui conseiller. Moi, je suis pas, je suis pas là pour approuver ou désapprouver ce qui se passe. C'est qu'est-ce qu'elle peut tolérer ou ne pas tolérer. Je pense que c'est ça son baromètre.
Mais ça ne dit rien de l'amour qui
n'est pas d'accord.
Oui, moi, je sais bien que je suis dans un studio de filles. Quand vous dites « elle n'a pas un mari parfait », je pourrais retourner le compliment. Je suis désolé pour l'auditrice, mais si elle ne peut pas assurer ses besoins sexuels, elle n'est pas non plus une femme parfaite.
Oui, mais peut-être qu'il lui
tout
demande
mariage
pas.
Tout mariage repose sur un contrat dès le départ. Si dans le contrat, il est permis de tromper l'autre, pourquoi pas ?
Oui, mais là, le contrat, il a l'air de le faire en sens unique. Ouais. Elle n'a pas l'air tout à fait d'accord avec ça.
Il ne tient qu'à elle.
Et la question reste en suspens.
Merci beaucoup, Cécilia. Ben voilà, ben, on a terminé avec vous. Merci d'avoir été avec nous ce matin pour nous éclairer sur toutes ces vagues qui font que nos couples ne sont jamais parfaits, mais c'est peut-être ça qui rend les choses aussi intéressantes et vivantes. On n'aura pas tant de choses à dire. On n'aurait pas tant de choses à dire, pardon, sur l'amour s'il n'y avait que des contes de fées.
Absolument. Elle est tout à fait troublée par le sujet, Mélanie Gomez. Oui. On va changer justement de thématique à présent. Les temps sont durs, ça c'est sûr, et pas que du côté amoureux. Nouvelles maladies, climat chamboulé. Eh bien, comment apaiser nos angoisses sans se jeter sur les antidépresseurs? La réponse est peut-être à trouver du côté des médecines douces. C'est notre dossier santé bien-être du jour.
Europe 1, 11h30.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Alors, pour y voir plus clair sur les médecines alternatives qui peuvent nous vouloir du bien dans certaines conditions, accueillons tout de suite, donc on vous a déjà entendu, mais c'est vous, docteur Patrick Lemoine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre, docteur en neurosciences et auteur du livre « Médecine douce pourtant dure » aux éditions Buchet-Chastel. Alors, est-ce que vous pensez vraiment que nous vivons dans un monde si anxiogène que cela? On est dans un temps dur, mais vraiment plus dur que quand, par exemple? C'est-à-dire, c'est le Covid qui vous fait dire ça ou c'est les temps modernes?
Oui, vous m'auriez posé la question il y a 3 ans, je vous aurais dit oui, bah pas plus que du temps de la Grande Peste, pas plus que du temps de la guerre 39-45, etc. Aujourd'hui, on vit une situation complètement inédite. Personne n'a vécu ce genre de truc, peut-être depuis la Grande Peste, la dernière au XVIe siècle. Donc on est vraiment dans un temps dur inédit, et c'est ça qui fout la trouille.
Et justement, qu'est-ce que vous pouvez observer, vous? C'est la montée des crises d'angoisse? Qu'est-ce qui s'est passé depuis le premier confinement?
Moi, je suis un spécialiste du sommeil, et je peux vous dire que l'insomnie a explosé, la dépression a explosé. Et pourquoi? La faute, encore une fois, à l'HAS qui n'a pas fait le job.
Autant, la Haute Autorité de Santé.
Autant le président de la République a fait le job en disant restez chez vous, il a eu raison, autant le relais n'a pas été pris puisqu'il n'a pas été dit levez-vous à la même heure que d'habitude et télétravaillez aux heures de bureau. Rien qu'avec ça, c'est-à-dire garder votre rythme en fait, on aurait évité une bonne part des insomnies, parce qu'il y a aussi l'insomnie anxieuse, bien sûr. Mais on aurait évité une bonne part des insomnies liées au problème de timing, mais aussi on aurait évité l'immense majorité des dépressions.
Alors vous parlez dans votre livre d'une médecin qui, durant le premier confinement, sans traitement contre le Covid-19, préférait traiter principalement le stress des patients. Pourquoi cela ?
Il faut traiter le stress, mais pas que. Il faut traiter les rythmes aussi, puisque nous sommes... Vous savez, la définition de la vie... c'est se reproduire et avoir des rythmes. Depuis le virus et la bactérie jusqu'à nous, tout le monde se reproduit et a des rythmes. Or, cette crise avec les confinements a totalement modifié les rythmes et a augmenté le stress. Et les moyens de lutter contre le stress, juste un petit mot. Pour moi, les médecines alternatives, c'est les médicaments. Pourquoi? Parce qu'on doit commencer déjà par faire confiance à notre organisme et à le mettre dans les meilleures conditions pour se débrouiller, pour lutter contre le mal. Et si ça ne marche pas, on va à l'alternative, c'est-à-dire on prend des médocs.
D'accord, c'est l'inverse.
Je crois que ce médecin avait recours à l'homéopathie qui n'a pourtant pas prouvé son efficacité scientifiquement, on est d'accord?
On est complètement d'accord. Vous savez, j'ai publié Le mystère du placebo, donc je peux parler d'homéopathie.
Alors, il y a aussi les soignants qui étaient traumatisés. Et pour aller mieux, certains ont eu recours à une cure d'EMDR. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi ça consiste et comment ça va agir sur le corps?
Alors l'EMDR, c'est pas du tout ni une médecine alternative, ni une médecine douce, c'est violent. C'est une espèce de chirurgie psychiatrique d'une incroyable efficacité et qui, pour la première fois dans l'histoire, permet de réunir les psychanalystes, les gens de thérapie cognitive et comportementale et les neuroscientifiques. Alors ça marche de manière très simple et ça a été inventé par une psychologue, Francine Shapiro, à San Francisco, à qui le médecin, sans aucune précaution, lui a dit dans un couloir « Au fait, j'ai oublié de vous dire, vous avez un cancer. Oh. » La fille retourne effondrée chez elle, se met sur son lit et machinalement, elle laisse errer son regard d'un coin à l'autre du plafond. Elle s'aperçoit que ça lui fait du bien. Et elle fait toute une théorie qui maintenant est reconnue par le monde entier, toutes les armées du monde, tous les gens au lendemain du Bataclan ou du 14 juillet sur la promenade des Anglais, recours à l'EMDR.
Mais ça consiste en quoi, une consultation de MDR.
Donc c'est avant tout pour traiter un traumatisme, et ce qu'on appelle un syndrome post-traumatique. Et moi je l'utilise, parce que je suis aussi EMDRiste, pardon pour l'Académie française, pour les gens qui vont vers un traumatisme, c'est-à-dire pour les phobiques. Si quelqu'un a peur des araignées, je lui fais vivre en EMDR, qui est une forme d'hypnose, faut bien le dire, la rencontre avec une araignée. Comment ça marche? C'est très simple, je vais vous prendre une métaphore. Vous imaginez que ce soir, Mélanie, vous rentrez chez vous et puis vous voyez que vous avez été flashé. vous êtes furax, c'est dégoûtant, un impôt de plus, c'est horrible. Vous avez une nuit un petit peu agitée, puis le lendemain, vous dites, bon, bah, c'est quand même pas grave, il n'y a pas mort d'homme, je vais récupérer mes points, je vais perdre tant de sous, c'est pas très grave. C'est-à-dire qu'au cours de la nuit, vous avez téléchargé une pièce jointe, le flash, de votre hémisphère droit qui est affectif à l'hémisphère gauche qui est rationnel. Et puis une fois que ça a été refroidi au passage, votre pièce jointe, elle va être archivée dans l'hippocampe et disons du côté gauche. Et puis de temps en temps, si vous voulez, Mélanie, désarchiver les multiples flashs que vous avez eus dans votre vie, ben vous pouvez le faire.
D'accord.
Ce soir, vous rentrez chez vous, vous voyez des pompiers partout, vous voyez une voiture en feu et vous voyez un cadavre de bébé sortir de truc horrible. Le soir, vous n'êtes pas bien, vous mettez au lit. Toute la nuit, vous cauchemardez. Le lendemain, vous êtes toujours aussi mal. Et dans la journée, vous avez des flashbacks. Donc ça témoigne de quoi ? C'est qu'au cours du rêve, c'est-à-dire du sommeil paradoxal, quand on a des mouvements oculaires rapides, exactement comme le MDR, eh bien, on essaye de télécharger la pièce, mais elle est trop lourde. La pièce jointe est trop lourde. Du coup, votre système, il insiste, il essaie de faire passer le truc. Ça ne marche pas. Cauchemar répétitif, flashback dans la journée. Et puis, à force de faire, ben, il se met en boucle, il bug. Et ça s'appelle le syndrome post-traumatique avec suicide, alcoolisme, toxicomanie et tout ce qu'on peut imaginer. Le MDR, c'est quoi ? Ben, c'est exactement comme quand vous, Julia, vous revenez d'un mariage et que vous avez fait 250 photos et vous les envoyez à tous vos amis, puis la pièce jointe est trop lourde.
Il faut faire un Wii transfert ?
Non, pas Wii transfert. Là, vous êtes en train de tout me détruire. Merci, Julia, je n'attendais pas moins de vous. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Ben, vous prenez par petits paquets de 25, vous fragmentez votre pièce jointe et vous l'envoyez. Le MDR, c'est rien d'autre. C'est-à-dire, vous faites revivre par hypnose le traumatisme. Et toutes les minutes, toutes les deux minutes, quand personne se crispe, vous faites ces fameux mouvements alternatifs, soit des yeux, soit du bruit, soit en tapotant la face externe des genoux, etc. Vous fragmentez la pièce et ça passe. Et c'est magique.
Et ça a donné de bons résultats sur les soignants traumatisés, justement, de la crise sanitaire.
C'est incroyable.
Bon, ouais. Docteur Lemoine, on n'en a pas terminé avec vous. On va continuer cette mise au point sur ces médecines douces ou médecines alternatives. Pour nous, il est parfois difficile d'y voir très clair entre les bienfaits de l'hypnose, du jeûne, ou même des bains de forêt ou de la sophrologie. Face à la méfiance grandissante à l'égard de la médecine traditionnelle, leur nombre explose et le nombre de charlatans avec. Heureusement, notre invité a fait le tri pour nous et on vous en parle ce matin sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous êtes sur Europe 1, c'est bien fait pour vous, en direct jusqu'à 12h30. C'est votre émission Bien-être tous les matins. Alors aujourd'hui, nous sommes particulièrement dans le bien-être puisque nous faisons un focus sur les médecines alternatives. Ce focus, on le fait avec vous, docteur Patrick Lemoine. Je rappelle que vous êtes psychiatre, docteur en neurosciences et auteur du livre Médecine douce pour temps dur aux éditions Buchet-Chastel. Alors, il y a un engouement ces derniers temps pour la sylvothérapie, c'est-à-dire la thérapie par contact avec les arbres. Docteur Lemoine, que dit la science, franchement, sur ces bains de forêt ?
La science dit d'une manière très simple que tout ce qui réduit le stress, tout ce qui réduit l'angoisse, est bon pour la santé, de manière générale. Et là, c'est même carrément neuroscientifique ce que je suis en train de vous dire. Et que le fait que nous ayons été construits dans les arbres, quand même, et que nous ayons longtemps vécu dans les arbres, fait qu'en effet, l'espèce humaine a une attirance particulière pour les arbres. Est-ce qu'il faut vraiment voir un sylvothérapeute pour se faire la sylvothérapie ? C'est une autre question.
J'allais vous dire, moi je connais quelqu'un qui organise des stages de bains de forêt comme ça et qui facture ça très cher à des gens un peu naïfs, moi j'ai l'impression. Et alors certes, tous y ressortent en disant que ça leur a fait beaucoup de bien, mais ça leur a fait perdre beaucoup d'argent dans leur porte-monnaie quand même. Et franchement, moi je pense que c'est un charlatan, quoi. Donc je ne sais pas. Comment on fait le tri justement entre le bon sylvothérapeute, entre guillemets, et en fait il n'y a pas besoin d'un sylvothérapeute.
Surtout qu'il y a même des, surtout qu'il y a même des dérives sectaires là-dessus. Donc je pense que le bon sylvothérapeute, si on veut, c'est celui qui ne trimballe pas toute une idéologie bizarre et qui ne prend pas beaucoup de sous. Si c'est prix coûtant, on va dire, pourquoi pas. Mais je peux vous dire qu'avec mes patients, quand ils sont très stressés par le Covid, par une vie trépidante, trop citadine, je leur dis, bah, écoutez, allez dans une forêt vers chez vous. Et puis marchez, puis vous verrez, il y en a un qui va vous attirer. Il y a un arbre, vous allez l'aimer tout de suite, il va vous choisir. Laissez-vous faire, et puis enlacez-le, mettez-vous au pied, méditez. Je ne demande pas de sous pour ça.
Déjà, vous le conseillez, et eux, ça leur coûte rien non plus.
Et ça marche parfaitement bien.
Mais ça fonctionne,
c'est ça. Parce qu'effectivement, nous sommes une espèce arboricole.
Et qu'il faut reconnecter à la nature, quoi. Ça, c'est important pour notre santé. C'est
Je pense que l'herbothérapie marcherait tout aussi bien.
Oui, ou la thérothérapie aussi.
Absolument. Alors moi, j'en fais beaucoup de thérothérapie. Je jardine beaucoup.
Ah, bah voilà.
Moi aussi.
Alors, on assiste aussi à de nouvelles pathologies, comme l'éco-anxiété, donc des patients qui développent des signes d'anxiété rien qu'en voyant à la télé des images de réchauffement climatique. Sérieusement ?
Oui. Et j'en vois de plus en plus. Ça va même jusqu'au collapsologue, style Yves Cochet, l'ancien ministre, qui est tellement anxieux vis-à-vis de la catastrophe, le collapsus mondial qui se profile, pas que le réchauffement, il y a la pollution, il y a la guerre, il y a tout, qu'il a certains moyens, il a pu acheter des dizaines d'hectares, créer une espèce de bunker, et il attend la fin du monde en essayant d'atteindre une autarcie parfaite, tout en se connectant avec ses voisins pour faire une autarcie collective.
Faut pas le mettre sous antidépresseur, oui. Et qu'est-ce qu'on veut faire pour lui ?
Je suis pas sûr que ça suffirait.
Ah bon, c'est vrai.
Mais je pense que effectivement, cette angoisse qui est entretenue par malheureusement certains courants, même politiques, est une très mauvaise idée, parce que je pense que toute information qui n'est pas assortie d'un message politique, positif, je lis l'absus, est une mauvaise information. Si on me dit il y a un réchauffement climatique, c'est la catastrophe, et qu'on ne me dit pas, puis même si on me dit, faites le tri des déchets, je sais que ça ne va pas suffire, c'est pas bon. Si on me dit il y a le Covid, mais les gestes barrières, le vaccin, tout ça, c'est une bonne information, parce que comme on l'a souvent dit, il y a le bon stress et le mauvais stress.
Et l'éco-anxiété, on l'a soigné avec quoi ? Avec la sylvothérapie, par exemple ?
Non, je pense qu'il faut vraiment une psychothérapie, pouvant inclure la sylvothérapie. Par exemple, moi je vous dis, je suis un adepte du jardinage, et je pense qu'il n'existe aucune anxiété qui résiste à une bonne séance de bêchage et de taille des... En ce moment, c'est plutôt la taille, c'est un peu trop tôt pour la taille des rosiers, mais rien n'y résiste, et ça marche.
Alors, le burn-out, souvent présenté comme le mal-être du siècle, a aussi une solution thérapeutique douce et peut-être plus atypique. Vous parlez de la rigologie. Alors, la rigologie, c'est le fait de rire, qui pourrait nous guérir, mais ça, c'est vrai ?
Bon, je suis un petit peu plus mesuré vis-à-vis de ça. Là encore, peut-être que je suis pas un anarchiste, je veux dire. Mais je pense que ce qui est un peu contraint, obligé, c'est difficile. Moi,
Vous n'y croyez pas au stage de rigolade ?
Je suis allé une fois dans un stage, assister à un stage de rigolade. Moi, ça m'a plutôt consterné, parce que si je ris, c'est complètement spontané. J'ai envie de... Parce qu'on me raconte un truc très drôle et que j'ai une situation qui me fait rire. Rire sur commande me paraît un peu difficile, mais c'est peut-être parce que je suis construit comme ça. Je pense qu'il y a des personnes qui peuvent rire sur commande. Rappelez-vous Henri Salvador, il avait un rire tellement communicatif. Il a été découvert dans un autobus à l'époque, parce qu'il avait éclaté de rire, il avait fait rire tout le bus. Et il y avait un metteur en scène dans le coin qui a dit, écoutez, il faut que je vous emmène dans un studio.
Vous êtes contagieux, c'est incroyable.
C'est là, c'est
donc vous êtes en train de me dire qu'à défaut de faire un stage de bonne rigolade,
écoutez
un extrait d'Henri Salvador ou tout du moins un film qui fait rire.
Par exemple, trouver le comique qui fait rire. Parce que moi, je peux rire avec tel comique. Pour moi, c'est De Vos, le maître de tout. Mais il y en a d'autres qui vont aimer Louis de Funès. Peu importe, il faut trouver celui qui fait marrer. Et ça, ça fait du bien.
Bon, parmi les médecines douces, dans votre livre, vous parlez de la méditation. On en connaît pas mal de bienfaits. D'ailleurs, il y a des études scientifiques qui montrent les bienfaits de la méditation.
Là,
vous en parlez pour vieillir mieux. Vous dites que ça peut avoir un réel impact positif sur Alzheimer, par exemple. Expliquez-nous.
Absolument. Et je pense que la méditation devrait être proposée dès la maternelle, tout au long de la vie. Et il y a des maternelles qui, à raison d'une ou deux minutes, deux fois par jour chez les petits, puis ensuite en primaire, ils continuent. Et c'est formidable. Et pour avoir un peu fréquenté les EHPAD, je peux vous dire que celles qui proposent de faire de la méditation ont beaucoup de succès, et qu'en effet, même si on est, on va dire, pré-Alzheimer, parce qu'une fois que la maladie est installée, malheureusement, il n'y a plus grand-chose à faire, mais une fois, avant que ça s'installe, ça fait tomber les angoisses, ça permet également de retrouver des bons rythmes, ça déstresse, et donc c'est formidable. Et je pense que la méditation, là, c'est du lourd.
C'est de la médecine lourde. Quand un patient vient vous voir pour un problème conjugal, on retourne un peu sur notre premier sujet du couple. Je crois que vous avez une méthode assez particulière qui consiste à rédiger deux lettres. Oui. Expliquez-nous.
Tout à fait. Régulièrement, puisque j'ai publié, comme je le disais tout à l'heure, le petit guide de la scène de ménage, j'ai beaucoup de patients qui viennent me voir pour leur problème de couple. Et soit il y en a un des deux qui vient, soit ce sont les deux qui arrivent. Et à ce moment-là, je leur dis, c'est simple. Tous les deux, vous allez écrire une lettre d'amour, une lettre de rupture.
Ah.
Et vous allez revenir, vous allez me les donner et je vais les lire à haute voix.
Oh là là.
Et si je vois que les lettres d'amour sont beaucoup plus inspirées, je peux vous aider. Si c'est les lettres de rupture qui sont... Il suffit d'une lettre de rupture qui soit inspirée. À ce moment-là, ce n'est pas de moi que vous avez besoin, mais c'est d'un avocat.
C'est ça.
Oui, c'est radical.
Bon, malheureusement, docteur Lemoine, on n'a plus beaucoup le temps de détailler toutes ces médecines douces, mais Je vous invite d'ailleurs à aller retrouver tous les détails dans votre livre, de votre enquête, hein, justement. Et il y a beaucoup de dérives, hein, dans ces médecines alternatives. Oui. Il y a même des sectes, hein, qui se, oui, développent autour du jeûne, de la sylvothérapie, etc.
Très prudent.
Est-ce que vous nous donnez un conseil, un bon conseil pour nos auditeurs sur comment on les repère, ces charlatans, ou même pire, ces sectes, hein ?
La première chose, c'est les sous. Parce que toute secte repose sur de la poudre aux yeux destinée à gagner beaucoup d'argent. Quelle que soit la secte, il s'agit de gagner de l'argent, éventuellement avoir du sexe avec les gens de la secte. Donc première chose, c'est les sous. À partir du moment où ça vous paraît raisonnable, il existe des stages, par exemple en Ardèche, où on médite tout en jeûnant, et où c'est des prix raisonnables, très bien. Et puis il n'y a pas une idéologie sectaire derrière.
Puis ça coûte pas cher, on mange rien.
Exactement. Oui, ça c'est pas forcément un critère. Ouais. Je peux vous dire qu'il y a des endroits où...
On mange pas, mais c'est très cher.
Vous faire une feuille de salade et une pomme par jour, vous payez une fortune. Donc le critère essentiel, c'est les sous. Il y a quand même aussi les diplômes, parce que c'est quand même, jusqu'à preuve du contraire, un certain...
Donc renseignez-vous sur les diplômes.
Un certain critère. Mmh. Et puis il y a le discours.
Très bien. Docteur Lemoine, merci beaucoup pour cet éclairage sur ces médecines douces qui, pour certaines en tout cas, nous veulent du bien. Il faut les aborder avec vigilance. Toutefois, naturel ne dit pas sans danger. Justement, pour davantage d'infos, je conseille à nouveau votre livre, Docteur Lemoine, Médecine douce pour temps dur. Merci encore.
Oui, merci à vous. On va basculer maintenant vers la dernière séquence de l'émission, notre partie tendance. On va écouter d'abord la chronique gourmande du chef Abdel Alaoui. Il nous propose de déguster des granolas. Il y aura même une petite recette qui va bien pour les amoureux de la cuisine. Ensuite, avec Maud Ravier, notre spécialiste beauté, on verra que le stress, l'anxiété, eh bien c'est très mauvais pour notre peau également. Elle nous dit que moins de stress, c'est moins de rides. Ok, mais on fait comment ? Eh bien, elle nous donnera ses meilleurs conseils. Et enfin, on va rester dans la beauté avec Philippine Darblé et sa tendance étonnante. Plus besoin de mettre des crèmes ou d'avaler des compléments alimentaires. Aujourd'hui, les minéraux pour avoir bonne mine, eh bien on se les étale directement sur la peau. Elle nous parlera notamment d'un enveloppement au magnésium. On va en découvrir des choses. Alors restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1,
11h30,
bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
De retour dans Bien fait pour vous, votre magazine bien-être dans lequel on prend soin de vous avec Mélanie Gomez tous les jours en direct jusqu'à midi et demi. Oh oui. Alors tout de suite, on va démarrer notre séquence tendance et on va la commencer aujourd'hui avec vous, Abdel Alaoui. Bonjour.
Bonjour les filles, comment allez-vous ? Ça va ?
Ça fait longtemps. Abdel, miam miam. Ouais.
Bonjour. Miam miam. Bon, j'ai enlevé mon masque pour parler ça.
Il y a quoi
ça,
au menu
ça.
Alors ? Hein ? Oui, il y a quoi au menu ?
Au menu, il y a des granolas. Oh, vous connaissez les granolas ?
Bah, évidemment.
On mange ça au brunch, au petit déjeuner. C'est tellement bon, croustillant et surtout hyper bon pour la santé.
Génial. Ah, ensuite, ce sera à vous de jouer, Maud Ravier. Bonjour.
Bonjour.
On a parlé un peu de stress, d'anxiété, là, tout à l'heure, dans notre dossier santé. Mm-hmm. Et je crois qu'on va continuer avec vous parce que vous nous dites que même du côté de la beauté, le stress, tout ça, c'est très mauvais. Hein.
Mais bien sûr, c'est hyper mauvais le stress. Ça resserre la peau, ça fait des boutons, des plaques sèches. Enfin bref, je vais vous donner plein d'astuces pour respirer essentiellement pour votre peau.
Et enfin, on va terminer ce tour de table avec vous, Philippine Darblé. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous nous avez déniché une tendance très nouvelle et très étonnante. Racontez-nous en quelques mots, s'il vous plaît.
Alors pour ceux qui connaissent les compléments alimentaires, on mange des nutriments, des minéraux, et bien maintenant, on peut les mettre directement sur la peau.
Ah,
voilà,
oh,
bizarre.
Oui, merci Philippine, ce sera à vous dans très peu de temps. Ne bougez pas, mais tout de suite, on va passer en cuisine dans Bien fait pour vous.
Europe 1, bien fait pour vous. Les tendances.
Abdel Alaoui, on va donc commencer avec vous et je sens déjà, vu tout ce qu'il y a sur la table, qu'on va se régaler un peu, avec un petit mélange de trucs bien bons. Parce que c'est ça, c'est du mélange, hein, c'est un mélange le granola, c'est un encas, on peut dire ça
vous... Oui, voilà, c'est un encas, c'est plein de choses, plein de graines différentes, je vais tout vous dire. En tout cas, il y a un truc que disait ma mère.
Ça faisait longtemps.
Dans le mot granola, il y a le mot gras, donc très bon pour la santé. Oui, riche en graisse, riche en antioxydants, riche en acides gras et oligo-éléments. C'est plein de fibres, plein de protéines végétales. Moi qui ai un peu de cholestérol, j'en consomme tout le temps, j'adore ça. Alors j'avoue que son petit côté croquant, gourmand et hyper bon pour la santé me ravit à l'heure du petit déjeuner, parfait pour le grignotage, on en parlait.
Mais le granola, c'est quoi ?
Alors le granola, c'est un muesli cuit, vous connaissez le muesli, hein, c'est un mélange de graines. Un mélange de flocons de céréales agrémenté des graines, on peut y mettre du sésame, des pignons de pin, des graines de courge, des graines de tournesol, du pavot, des graines de lin, même pour apporter un petit côté... anisé, on va y mettre aussi des graines de fenouil si on veut.
On peut tout mettre.
On mélange toutes ces graines avec des fruits secs oléagineux. Est-ce que vous connaissez ? C'est tout ce qui contient de l'huile. Donc les noisettes, les amandes, les noix, les noix de pécan, les noix de cajou, les noix de macadamia. On peut y rajouter des petits abricots secs, des figues, des mangues séchées. Alors une fois qu'on a tout ce mélange, on vient brasser comme ça avec ses mains. On met tout ça au four. Ce mélange va dégager comme une vapeur.
Ça va suer.
Ça va suer, ouais. Et donc cette vapeur, elle va être un peu sucrée. elle va se caraméliser parce que c'est de l'humidité.
Ça doit sentir bon dans la cuisine, hein,
c'est
quand
hyper
on fait
bon,
ça.
Ça torréfie, c'est fumé. Et du coup, ce caramel, forcément, il va durcir. Et c'est là où on va obtenir ce granola. Bon. Donc on peut l'émietter, on peut l'avoir en morceaux, en petites tablettes, vraiment ce qu'on veut.
Bon, et ça vient d'où le granola d'ailleurs ?
Alors vous allez voir, c'est assez étonnant comme histoire. Alors ça a été créé en 1860 par un propriétaire de cure thermale, le docteur James Caleb Jackson. À l'époque, pour ses patients, il faisait sécher de la farine au four pour la rendre hyper dure. Après, il l'émiettait et il la servait au petit déjeuner. Alors, il était très avant-gardiste justement sur...
Allez, la farine pour tout le monde au petit déjeuner.
C'est exactement
ça. Gourmand, hein.
Sur l'alimentation saine. Donc, on faisait manger à tous ses patients de
manger de l'air
de la farine.
Aussi, c'est bon pour la santé.
Alors, cette préparation, il l'avait appelée le granula. Voilà, du nom latin granum qui veut dire graine. Vous voyez où je veux en venir. Après, là, il y a un petit filou qui a débarqué. Il est passé
par là.
Un certain John Harvey Kellogg's. Vous connaissez il est malin, ce petit. Hein. Alors, le mec a pas manqué de culot. Il a appelé sa préparation aussi granula. Bon, il a perdu après une poursuite en justice. Et il a appelé ses céréales granola. Et c'est là où est né le granola, qui sont devenus par la suite cornflakes.
Granola, ne pas confondre avec le biscuit aussi, qui est très bon.
Oui, bien sûr, c'est trop bon.
Bon
ça. Côté chocolat, là.
J'ai jamais aimé, moi, ce truc-là. Je sais pas pourquoi.
Moi, j'adore ça. Vous trempez ça dans le lait froid. C'est parfait.
Ouais, même le thé, n'importe quoi. Alors, est-ce que vous avez une recette simple et rapide ?
Alors, une recette de barre de granola de saison, ça vous dit ?
Carrément.
Comme je vous disais au départ, il y a des granolas en poudre, comme ça, en morceaux. Mais aussi, on peut les faire en barre. Et vous allez voir, c'est une recette hyper simple. Alors, 200 g de flocons d'avoine, on en trouve partout, 25 g de graines de pavot. 25 g de graines de sésame, 50 g de noisettes concassées, 50 g d'amandes concassées, 50 g de noix, 50 g de peau d'orange confite. On en trouve partout, de la peau d'orange
confite.
Moi,
j'en ai sur moi. Ouais.
D'ailleurs, vous avez un peu sur le visage. Là,
mais ça va pas.
50 g de coco râpé, 25 centilitres de sirop d'érable, voilà, pour apporter ce petit côté sucré. Une cuillère à café de cannelle en poudre. Alors, on va tout mélanger. On étale ça sur une plaque d'une hauteur de 2-3 cm, justement pour avoir l'épaisseur de ces petites barres. Alors, on met un papier sulfurisé en dessous.
Vous savez ce que c'est, un papier sulfurisé, Julien ?
Jusque-là, ça se mange pas.
On tasse bien tout ça pour justement avoir une épaisseur de 2 cm. Là, j'en ai quelques-unes. Hein. Je les ai pas faites, mais je vous montre
un peu.
Avec
quoi vous tassez, vous, d'ailleurs ?
Alors, soit un rouleau à pâtisserie, soit on y va à la main, ou soit avec le cul d'une casserole.
Ah, oui, c'est pas mal. Voilà.
Donc, on va pas taper trop fort, sinon on va obtenir un granola en poudre, mais laissez quand même assez entier. On cherche l'épaisseur de 2 cm.
D'accord.
C'est très important. On met ça au four à 180 degrés, on laisse caraméliser, on enlève ce papier sulfurisé, et là on va laisser refroidir, donc le caramel va durcir, et on vient trancher des petites barres comme ça pour le goûter.
Ça fait grossir, ça ?
Pas du tout.
Non, mais ça dépend.
Ça dépend ce qu'on met comme sucre. Là, moi, je mets un sirop d'érable, on peut mettre du miel.
Parce que là, vous avez mis le flocon d'avoine, c'est pas trop sucré, par exemple.
C'est pas trop sucré, il y a plein de graines différentes. On peut y mettre du miel, on peut y mettre...
Du chocolat.
Aujourd'hui, on fait un sucre de date, je sais pas si vous connaissez.
Ah non, pas du
tout. Sucre en poudre de date, c'est hyper bon pour la santé. Donc on vient mettre, tant que ça caramélise, c'est le plus important. Là, j'en ai ramené plusieurs.
Bah oui, dites-nous un peu tout ce qu'il y a autour de la table.
J'ai ramené avec une marque. Voilà, hop. Ouais. Ça, c'est un granola salé que fait Catherine Gouillard. Je ne sais pas si vous connaissez.
Non, on va
c'est
goûter.
Un peu la spécialiste
c'est
des granolas.
C'est pour l'apéro, ça ?
Voilà. Donc, on en a. Là, c'est tomate, parmesan et paprika fumé. Après, on a le chocolat chia de Positif Healthy Food. Alors, je ne l'ai pas ouvert, mais regardez, hop, on va l'ouvrir. Ils sont tellement bons. Regardez, voilà, goûtez-moi ça.
On va goûter.
Voilà, chocolat chia. Et après, il y a une marque qui s'appelle le fruit détendu, pas le fruit défendu.
Ah, drôle.
Le fruit détendu avec chocolat cacahuète. Pareil. Alors celui-là, il est un peu plus épais, vous allez voir.
Mais ça, c'est pour mettre dans le lait, non, le matin, au petit déjeuner. Mais ça, c'est pour le lait.
Vous mettez ça dans le lait, vous pouvez mettre ça sur un fromage blanc, sur un yaourt bulgare, avec en complément justement des graines.
Oula, ça a l'air bon. Hein.
Et là, vous avez des petites barres de granola, justement, graines de sésame, fruits secs. Voilà, une chacune.
Et ça, avant une séance de sport, c'est pas mal.
C'est un apport de sucre, hein, c'est très bon, hein, franchement.
Mais ça donne un coup de fouet, c'est très énergétique.
Bah oui, c'est plein d'énergie. Vous
avez
vraiment
reçu un texto, Julia, qui dit ne touche pas au granola.
Ouais, c'est vrai.
C'est trop tard.
Tenez les filles, il y en a plein là autour de moi. Voilà, donc
moi je balance, elle a touché, très peu.
On peut faire des granolas salés, des sucrés, voilà, la texture qu'on veut, en barre, en boule, épais, ce qu'on veut.
Parfait.
Eh ben merci. Qui est en capacité de parler?
C'est bon, j'ai avalé. Merci beaucoup Abdel Alaoui pour ce coup de projecteur sur ce produit si gourmand, le granola. Franchement, on adore. Et merci pour la recette que je ne testerai probablement jamais. Mais Mélanie va peut-être se lancer et puis elle va nous emmener des granolas au bureau. Alors rester ensemble avec d'autres tendances dans un instant. D'abord, c'est Maud Ravier qui nous invite à ne plus stresser, à rester zen au maximum dans nos vies. Car vous savez quoi? Moins de stress, c'est moins de rides. Mais bon, pas forcément facile à appliquer. Elle nous dira comment nous y prendre concrètement. Et enfin, dans quelques minutes, on écoutera Philippine Darblay qui va nous expliquer qu'on n'a plus besoin d'avaler des compléments alimentaires pour rester en forme, pour avoir une belle mine. Aujourd'hui, on peut s'en tartiner la peau de ces minéraux. Elle va tout nous expliquer. Alors, je vous le conseille, restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez.
C'est bien fait pour vous, nous sommes en direct jusqu'à 12h30 avec notre trio de chroniqueurs toujours autour de la table pour notre séquence tendance. On s'est bien régalé avec les granolas. Je précise juste une petite chose que Abdel n'a pas précisé. Pensez à acheter une brossette dentaire si vous faites des granolas.
Une brossette spéciale granola.
Voilà, parce que c'est nécessaire. Alors maintenant, c'est à vous Maud Ravier. Je crois qu'on va rester bien sage, bien zen.
Oui,
là, tout
détendez-nous, on va se détendre.
On ne veut pas se rider davantage, surtout c'est à vous.
Eh bien, alors, le stress est très important pour la peau. Il faut absolument le gérer. C'est ça que je veux dire. C'est que ça oxygène pas du tout les tissus. On est sur un stress oxydatif, c'est-à-dire que la peau va se resserrer. Il va pas y avoir assez d'oxygène qui va venir nourrir les tissus cutanés. On va se retrouver avec des plaques, des boutons. Et puis, du coup, forcément, la ride va se créer parce que la peau n'est pas nourrie.
Le stress oxydatif, ça veut dire du vieillissement, en fait. C'est ça, donc des rides, même.
Exactement,
plus de rides,
la peau s'assèche. Et puis, il faut savoir quand même qu'à la base, le stress était fait pour... on se faisait agresser par un lion. Donc on se mettait à courir, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cerveau envoie un message au corps qui est de donner de l'oxygène au cœur, aux muscles, et du coup la peau n'étant pas du tout vitale, elle n'est pas nourrie. Alors quand c'est un stress que de temps en temps avec un gros lion,
tout va bien. Mais comme il n'y a pas souvent de lion,
mais voilà. Mais quand c'est un stress journalier au bureau avec peut-être un patron, des clients, etc., le problème c'est que la peau devient très très stressée et ça se voit.
Vous en tant qu'esthéticienne, vous le voyez, c'est-à-dire que vous pouvez me regarder ma peau et me dire si je suis stressée.
Vous avez l'air pas mal, je crois.
Mais oui, complètement, en fait. On peut même voir si... C'est triste, mais on peut même voir à la première impression si la personne est heureuse, pas heureuse. Les rides sont crispées, le teint est terne, les yeux sont assez cernés, assez gonflés. Évidemment, malheureusement, on voit aussi sur la peau l'état du stress.
D'ailleurs, vous parliez des yeux. Là, oui. Le stress, c'est pas bon pour les yeux, le contour de l'œil notamment. C'est l'enfer, ça.
Alors en fait, quand on est stressé, les hormones du stress provoquent une dilatation ou un rétrécissement des vaisseaux. C'est ce que je vous disais. Donc du coup, la circulation sanguine et le drainage lymphatique ne se fait pas bien. Et on se réveille le matin avec des poches, des cernes. Ça peut même aussi jouer sur tout ce qui est la couleur de la peau. Donc il faut absolument traiter avec, je ne cesse de le dire, mais c'est vraiment magique, des massages, du drainage, du froid.
Le contour de l'œil, vraiment?
Oui,
c'est vraiment hyper important. On fait quoi? On met un petit ustensile au frigo? C'est une bonne idée, ça?
On peut mettre les fameuses pierres de gua sha, mais sinon on peut aussi mettre tout simplement les sérums au frigo, parce que l'effet glacé un petit peu va obliger la peau à se drainer et à retirer le côté un petit peu
Abdel,
pas cher.
Il a bonne mine, il ne doit pas stresser beaucoup.
Non, il est très détendu.
Pourtant je stresse pas mal et je commence à avoir des cheveux blancs et je perds la vue. Est-ce que ça... C'est...
non,
je me dis c'est peut-être ça.
Là je ne peux rien faire pour vous.
Là je ne peux rien faire.
Maud Ravier, pour calmer le stress, qu'est-ce qu'on fait alors?
Alors bon, c'est la base, mais évidemment on ne cesse de le répéter parce qu'on l'entend mais on le fait pas. Moi j'en ai marre de tous ces gens qui ne font pas, qui ne prennent pas soin d'eux, au moins 30 minutes par jour. C'est quand même pas compliqué, soit le matin, soit le soir, de marcher, de bouger, de faire des techniques un peu de yoga, des techniques méditatives. C'est tellement important. C'est ce que je disais aussi, est-ce qu'il vous viendrait à vous, messieurs, l'idée de ne pas mettre de l'huile dans le moteur de vos super voitures? Non. Et ben nous, en tant que femmes et hommes, c'est tellement important d'amener de la bienveillance, de la respiration et du calme à votre organisme pour que votre peau soit beaucoup plus lumineuse.
Vous, alors on est à la radio, mais vous pouvez évidemment aller sur europe1.fr. Vous êtes magnifique, Maud Ravier. On aimerait bien connaître votre routine beauté, par exemple. Est-ce que vous vous appliquez à vous-même toutes ces choses-là?
Alors franchement, Oui, pourquoi ? Parce que je me rends compte que quand je respire mieux, quand je fais un petit peu de méditation, il faut savoir quand même que la méditation, ça fait partie maintenant désormais d'une étude scientifique.
Oh, pas une, il y en a plusieurs,
même. Oui, beaucoup d'études scientifiques qui vraiment prouvent que ça calme le stress. Et le stress, ça crée aussi des maladies, hein, des cancers, etc. Donc ce n'est pas que l'esthétique, la beauté de la peau, c'est aussi bien plus profond que ça. Donc figurez-vous que je suis partie moi aussi en retraite, parce que j'adore faire ça. Donc une retraite méditative, yoga, posture.
Et j'ai sylvothérapie, on en parlait tout à l'heure avec notre invité.
Mais c'est génial, la sylvothérapie.
C'était pas une secte au moins.
Non, c'était pas une secte, mais presque. Non, je rigole. Non, pas de je suis revenue gouroutisée. Non, les arbres sont hyper importants. Ils nous expliquaient que la chlorophylle aussi est très importante. Donc n'hésitons pas à mettre des arbres, d'utiliser les huiles essentielles. C'est très... Par exemple, l'huile essentielle d'orange douce est parfaite pour le surmenage, pour gérer les colères, mettre de bonne humeur, un lâcher prise, et l'huile essentielle de laurier.
Ah oui.
Alors ça, c'est pour le recentrage, l'alignement, la concentration. C'est une espèce d'huile qui va vous faire devenir une force tranquille.
Est-ce que vous avez testé la cohérence cardiaque ?
Alors, j'adore aussi. Un petit moment de stress avant un rendez-vous, avant une réunion. Il y a des applications qui sont super. Vous tapez, vous allez trouver. Il y en a plein qui sont vraiment très très bien. Et vous apprenez tout simplement à gérer et à respirer. Mmh. C'est la base, c'est la base.
On a fait une émission d'ailleurs où on vous écrit tout ça, enfin on vous décrit tout ça et les façons de vous y prendre au quotidien sur la cohérence cardiaque justement. Vous pouvez retrouver ça en replay sur europe1.fr. Alors c'est peut-être pas évident pour tout le monde de se lancer comme ça alors qu'on a déjà du mal à gérer son stress. Est-ce qu'on peut se faire aider selon vous ?
Alors, moi, j'aime vraiment pouvoir accompagner les gens dans ce stress-là, et c'est pas évident. Donc, je vous invite vraiment à aller voir sur des sites comme le Château du Launay ou la Pensée Sauvage. Ce sont des gens qui sont là pour vous, avec nous, qui nous accompagnent en randonnée, qui nous font voir autre chose, qui nous vous apprennent à respirer. On apprend plein de choses sur les huiles essentielles. On respire, et franchement, au bout d'une semaine, on revient, mais avec une patate et une peau extraordinaire.
Vous n'avez pas rides, un bouton. Alors.
Mais moins de rides, moins de stress, moins de poches, moins de cernes. C'est
et
magique.
Moins d'argent. Merci beaucoup, Maud Draguier, pour toutes ces infos et tous ces conseils que l'on va s'empresser d'appliquer dans notre vie quotidienne. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est vraiment valable en médecine, mais c'est valable aussi en esthétique. Justement, on va rester en quelque sorte dans la beauté avec Philippine Darblay. Alors, bonjour Philippine. Aujourd'hui, vous allez nous présenter une tendance étonnante. On va pouvoir jeter toutes nos crèmes et nos gélules de compléments alimentaires, c'est bien ça ?
Alors, attention, petit, on rectifie, hein, on ne jette rien, mais par contre, on va apprendre des trucs assez marrants parce que, en fait, on peut aussi se les appliquer sur le corps. Alors, qui fait des cures de compléments, justement, autour de la table ?
Jamais. Tout le temps, de façon équilibrée, j'ai pas besoin. Ouais. Et c'est ce que je conseille d'ailleurs à tout le monde de faire. Hein.
Oh. Moi, j'en fais plein, moi.
C'est vrai, voilà.
Elle essaye tout, Julia.
Elle essaye tout. Peut-être que vous prenez du magnésium, des vitamines, des choses comme ça. Ça améliore la peau, les cheveux, ça a pas mal de bienfaits. Et bien justement, la nouvelle tendance, c'est pas simplement les manger, ces nutriments, mais c'est de les appliquer directement, quasi brut, sur le corps. Voilà, pour bizarre, en avoir les effets.
Mais est-ce que vous auriez des exemples de soins pour mieux comprendre cette tendance-là dont vous nous parlez ?
Oui, ben justement, je sais pas si vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous parlais d'un nouveau concept qui s'appelle le sauna infrarouge.
Oui, on a adoré cette chronique, voilà, c'était passionnant.
Le sauna infrarouge, en fait, c'est un sauna qui chauffe, non pas avec un poêle, mais avec des rayons infrarouges, et donc qui peut permettre d'éliminer jusqu'à 3 fois plus qu'un sauna classique. Eh bien, il y a un salon à Paris qui s'appelle The Sweat Lab qui propose, pendant une séance de sauna infrarouge, de vous appliquer un soin au magnésium.
Mais alors, pourquoi le magnésium ?
Eh bien alors, ça c'est Anne, la cofondatrice du salon, qui va nous expliquer tout ça.
On utilise le magnésium parce qu'il a une double action, contre la rétention d'eau et les inflammations. Donc il permet d'aider à drainer encore davantage et il participe à la détoxification du corps. Le magnésium va aussi permettre de lutter contre le stress et la fatigue, et c'est aussi ce qui nous intéresse.
Donc voilà, donc même sous forme de lotion quasi pure à appliquer, les bienfaits sont multiples. Voilà.
Et à quoi ressemble donc ce fameux soin de magnésium ?
Eh bien, c'est un soin qui est tout nouveau, ça vient d'arriver en France. En fait, ce salon serait le premier à l'importer des États-Unis, c'est Made in America. Voilà, ça rend tout ça très chic. Et c'est sous forme de body wrap. Alors, vous avez dû voir ça, en tout cas, moi, je surconnais.
Ouais. Moi, je connais les wraps, mais c'est
nous qui sommes emballés, là.
On va se faire emballer.
Ben, c'est à peu près le même concept, en
fait.
Hein.
Ouais. D'ailleurs.
To wrap, en fait, ça veut dire envelopper, entouré. Donc, dans
le fromage.
Et de magnésium. Et voilà, de magnésium. Donc,
Dans le monde de l'esthétique, c'est en fait c'est une technique qui consiste à d'abord appliquer des produits. Souvent, on vise le ventre, les cuisses, les bras, qui sont sujettes à la rétention d'eau, et on les entoure autour de bandelettes un petit peu comme une petite momie, justement, un petit wrap. Mm-hmm. Ça permet à la fois d'absorber le produit et d'accélérer la sudation. Alors, pour vous expliquer un peu tout ça, parce que ça paraît technique, en fait, c'est assez simple, et je vous donne un petit aperçu de cette expérience.
Donc là, on va poser les bandes adhésives, auto-adhésives, sur chacune des zones qui ont été préalablement imbibées de magnésium et on va en fait les enrouler à la manière d'un maquis.
Ah oui, ça fait vraiment maquis parce que les bandes sont noires, du coup j'ai l'impression d'avoir des petites jambes de maquis.
C'est ça.
Et c'est, en fait, c'est presque comme si on était...
momifié.
Momifié ou un peu comme une papillote pour aller au four, quoi.
Complètement.
Concrètement, c'est ça.
C'est complètement ça.
Et on est parti, alors.
Et on est parti.
C'était une chronique culinaire.
Non, mais tout se rejoint, tout se rejoint. Regardez,
vous aviez
bien
des petites jambes de petits maquis.
Moi, j'aurais acheté des gros maquis. Bien ficelé.
Mais c'était assez amusant, je dois dire. Et après, en termes de ressenti, au niveau des bandelettes, ça picote. Et ça, c'est signe d'activation du magnésium. Mmh. Et après, voilà, c'est dans le cas d'un sauna infrarouge, donc on élimine, mais ça reste vraiment doux. On en sort apaisé, léger.
Et c'est combien pour ressembler à un maquis?
Et ces fameuses séances de sauna infrarouge, c'est 55€ la séance, 75 à 2. Et il faut ajouter 10€ pour ce soin.
Voilà. Le maquis à la roue magnésium.
Voilà, c'est ça, pour devenir un petit maquis.
Et si on veut tester cette tendance à la maison et s'enrouler soi-même, comment on fait?
Alors, il y a plein, en fait, il existe dans le commerce plein de produits, plein de choses à manger.
Adèle nous donnera quelques références.
Il existe plein de produits sous forme de nutriments et de minéraux concentrés. Alors ce fameux magnésium, par exemple, on peut le retrouver sous forme d'huile sèche. Il y a une marque top qui s'appelle Au cœur des traditions qui va puiser son magnésium dans la source la plus pure au monde, qui est d'une mer ancienne aux Pays-Bas. Après, Typologie, qui est une autre marque, fait des super trucs, notamment un sérum visage 5 minéraux qui contient du calcium et du zinc. Et on peut même trouver, par exemple, une crème aux multiples vitamines B et C, E chez Björk & Berries, qui est une marque suédoise. Donc voilà, en conclusion, petite question pour vous tous autour de la table. Si cette année, on applique sur la peau ce qu'on mange, est-ce que l'année prochaine, on ne va pas finir par manger nos crèmes?
Oh là là.
Voilà, jusqu'où la tendance.
Adèle, vous qui adorez envelopper, tortiller, saucissonner, ça vous
chronique.
Tente ouais, l'enveloppement
je vais
magnésium
ouais,
c'est
je vais
ça
tester, ouais.
En plus, vous avez tout le matériel
franchement,
vous, dans votre cuisine.
Franchement, j'ai tout ce qu'il faut.
C'est pratique.
Bien
ça.
Imbiber tout ça.
Voilà, on fera mariner avant, hein,
ouais.
Bien sûr.
Oh là là,
merci beaucoup, Philippine, pour la présentation de toutes ces nouveautés dont, franchement, j'ignorais l'existence. C'est bien ça dans cette émission, Julia. On peut rater aucune tendance, hein,
oh,
en tout cas.
Chouette.
On va tout essayer. Qui nous font du bien. Voilà, bien fait pour vous, touche à sa fin. On sera évidemment de retour demain. Dès 11h. Et Julia, demain, qu'avons-nous au programme?
Alors, demain, Mélanie, on va parler de langage. Attention, hein, pas de la parole, mais de notre langage corporel. Et vous verrez qu'on peut dire beaucoup de choses avec des gestes. On verra comment décrypter cette communication non-verbale et même savoir si quelqu'un nous ment rien qu'en le regardant.
Oh, regardez-moi, Mélanie.
Non, ça va, vous dites la vérité.
Ouais, ça peut être très utile, en tout cas, tout ça. Alors, soyez au rendez-vous.
D'ici là, en tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos témoignages aussi, si vous le souhaitez, sur notre compte Instagram ou sur le répondeur de l'émission au 3921. À suivre, c'est Europe Midi avec Romain Desarbres.